Donc Jésus est à Jérusalem. Et comme tous les Juifs pieux, il est venu y célébrer la Pâque, qui est la commémoration de la sortie d'Égypte du peuple d'Israël, où il était en esclavage. Les évangiles nous racontent par ailleurs qu'il a été accueilli à Jérusalem avec des cris de joie. Alors Jésus s'est rendu au temple de Jérusalem, et car ce temple, c'était le lieu privilégié à l'époque de la présence de Dieu au milieu de son peuple. En sortant du temple avec ses disciples, ces derniers attirent l'attention de Jésus sur la beauté de la construction, sur les pierres sculptées, sur le nombre de richesses et de marques de reconnaissance que les croyants y ont apportées. Alors Jésus casse l'ambiance. Casse l'ambiance d'une seule phrase. Des jours viendront où il ne restera pas une seule pierre posée sur une autre. Tout ce que vous voyez ici sera détruit. Il nous est difficile d'imaginer la stupeur que cette phrase de Jésus a provoquée chez ceux qui l'entouraient. Le jour où le temple de Jérusalem serait détruit serait pour eux le moment le plus effroyable qui puisse arriver. Alors Dieu serait vaincu. Ce serait la fin de sa présence dans le temple, au milieu de la ville, au milieu du peuple. Alors ils interrogent Jésus, quand cela arrivera-t-il? Cela arrivera-t-il de notre vivant? Que signifiera cet événement? Ils se perdent bien sûr en conjectures, mais nous, nous savons ce qui s'est passé. C'était en l'an 66, soit environ 36 ans après la mort de Jésus. Un geste provocateur d'un païen devant la synagogue de Césarée, petit port de la Méditerranée, déclenche le soulèvement de quelques patriotes juifs contre l'occupant romain. Les troubles se propagent et atteignent Jérusalem. La répression est féroce. L'escalade de la violence se met en marche et bientôt tout le peuple se soulève. C'est une véritable guerre qui vient d'éclater. Dans un premier temps, les Juifs réussissent à libérer Jérusalem et à repousser les Romains. Mais la supériorité militaire des Romains leur permet de reprendre le dessus. Pas tout de suite, cependant. 4 ans plus tard, en 70, après un siège de plusieurs semaines, l'armée de Titus entre à Jérusalem. Les soldats romains sont obligés de conquérir la ville rue par rue, quartier par quartier, avant d'atteindre le temple. Ils le pillent, puis l'incendient. La ville est rasée. Il ne subsistera qu'une partie de la muraille du temple, qui demeure encore à Jérusalem. L'État hébreu n'existe plus, et le culte sacrificiel n'est plus célébré. La victoire romaine a entraîné le déplacement d'une partie importante de la population juive. Soit elle a réussi à fuir, soit elle a été faite prisonnière, voire esclave. Luc écrit son évangile environ 20 ans après ces événements, dont le souvenir est encore présent très vivement dans la mémoire de ses lecteurs, qu'ils soient d'origine juive, grecque ou romaine. Ils ont compris, à la lumière de ces événements, et de ce que Jésus avait dit du temple et de sa destruction, que des temps nouveaux était arrivé et en ont tiré plusieurs conséquences que nous allons voir ensemble. Puisque Jérusalem était détruite, la présence de Dieu n'était plus localisée à cet endroit, mais se manifeste partout dans le monde. L'alliance que Dieu avait conclue avec Abraham, Isaac et Jacob, et renouvelée avec Moïse et David, est terminée, c'est-à-dire qu'elle est réalisée, accomplie. Et désormais, toutes les nations sont appelées à recevoir la bénédiction et les promesses de Dieu. Toutes les nations. Donc maintenant, plus besoin de temple à Jérusalem. Chaque femme, chaque homme est appelé à devenir le temple du Saint-Esprit et le lieu où Dieu veut venir habiter notre cœur à chacun. Dieu a ouvert un nouveau chapitre de l'histoire de l'humanité, une nouvelle alliance. Ce nouveau et dernier chapitre, cette nouvelle alliance, Dieu l'a donnée par l'envoi de Jésus de Nazareth dans le monde. Elle est attestée par la mort et la résurrection de Jésus, le Messie. Ce dernier chapitre se terminera par le retour du Messie que les chrétiens attendent désormais. Et une idée assez répandue est que ce retour soit précédé d'événements et de désordres semblables à ceux qui ont marqué la fin de la première alliance, c'est-à-dire ce que nous avons lu dans la parole de Luc. Alors, par tradition, les derniers dimanches de novembre, qui se trouvent à la fin de l'année liturgique, et les premiers dimanches de l'Avent, qui ouvrent la nouvelle année liturgique, sont consacrés à ce que l'on appelle la fin des temps et le retour du Christ. C'est ce qui explique le choix des lectures de ce dimanche. Le thème de la fin des temps, nos contemporains parlent plutôt de la fin du monde, est un thème qui prend plus ou moins d'ampleur selon les périodes. Alors maintenant, je ferme ma Bible et j'ouvre le journal. Les colonnes en sont pleines de choses effrayantes. Crise politique, crise migratoire, crise de l'emploi, crise économique, sans compter les articles haineux et xénophobes qui sont pour partie la conséquence de l'exploitation politique des attentats qui nous ont frappés et que la presse reprend et amplifie parce que ça fait vendre. On peut souligner aussi les campagnes de certains politiciens qui, en France et dans le monde, souffle sur les braises de l'identité nationale et développe xénophobie et nationalisme. Qui, à force de réclamer davantage de mesures de sécurité, crée même une impression d'insécurité. Bien sûr, les attentats ont tué. Bien sûr, beaucoup de gens ont peur de la mort. Mais si vous regardez sur Internet les statistiques mondiales de causes de mortalité, vous verrez que la violence intervient pour 1%. La violence, toute forme de violence. La guerre pour 0,31%. Toutes les guerres. Les accidents d'avion pour 0,0009%. Il y a 3 zéros après la virgule, c'est-à-dire 9 par million. Et les attentats, on n'en parle même pas. Alors, une chose est certaine, nous mourrons un jour. Mais une autre chose est quasiment certaine. Ni nous-mêmes, ni aucun de nos proches, ni aucune de nos connaissances ne périront dans un accident d'avion, ni a fortiori dans un attentat. Alors gardons confiance. Jésus dit bien, quand tous ces événements arriveront, ce ne sera pas encore la fin. Il se passera encore ceci, et puis encore cela. Dans ces turbulences, quelle doit être l'attitude du chrétien ? Pour illustrer l'attitude chrétienne dans ces circonstances, le pasteur Antoine Nouis, bien connu des lecteurs de Réforme, raconte la petite histoire suivante. Deux hommes se sont égarés la nuit dans une forêt dangereuse. Une forêt semée d'embûches et peuplée de bêtes sauvages. L'obscurité est terrifiante. Seuls brillent les yeux menaçants des animaux qui les observent. Pour couronner le tout, un orage éclate. Le bruit du tonnerre est assourdissant. Les éclairs déchirent le ciel. Un des hommes est terrorisé. Il pense que sa dernière heure est proche. Il ferme les yeux, il se bouche les oreilles, il se recroqueville sur lui-même, il se met en position de fœtus, il attend la fin. L'autre, son compagnon d'infortune, a décidé de lutter. Les yeux grands ouverts, il profite des éclairs pour repérer son chemin. Les souffrances n'auront pas le dernier mot. Notre avenir n'est pas un monde rempli d'horreur. Je suis aussi celui qui sera là au dernier jour et je rassemblerai tous les miens d'un bout du monde à l'autre, dit Jésus. Et si nous actualisons un peu ces paroles, les paroles que nous avons lues tout à l'heure, eh bien ça pourrait donner « Ne vous laissez pas influencer par les médias qui font peur aux gens parce que ça fait augmenter leur tirage. » Ils disent « Le temps est arrivé. » Ne les suivez pas. « Ne vous effrayez pas, n'ayez pas peur. On ne pourra toucher à aucun cheveu de votre tête sans que je le sache. Redressez-vous, levez la tête. Ne vous préoccupez pas de la façon dont vous aurez à défendre votre attitude. Poursuivez vos occupations habituelles et occupez-vous de votre prochain. » Un jour, quelqu'un demanda à Luther, « Mon cher Martin, que feriez-vous si on vous apprenait aujourd'hui que la fin du monde est pour demain ?» Et voici la réponse de Luther. « Si j'ai décidé de planter un pommier, je planterai ce pommier. » Alors, notre conclusion, puisqu'il faut arriver à une conclusion, elle tient dans une proclamation de l'Évangile. « Le ciel et la terre disparaîtront, tandis que ma parole et les promesses qu'elles contiennent ne disparaîtront jamais. Le ciel et la terre disparaîtront, tandis que ma parole et les promesses qu'elles contiennent ne disparaîtront jamais. Parce que Dieu aura le dernier mot dans l'histoire du monde, nous pouvons nous libérer de toute préoccupation de nous-mêmes et nous tourner vers ceux qui nous entourent pour leur apporter ce dont ils ont besoin pour vivre, de la nourriture, mais pas seulement du pain. Amen.